Secret de la chapelle, on a une grosse mouche qui vole et elle est là sous le vitrail. On peut quand même pas taper sur le vitrail, c'est pas possible. Elle est énorme. Ah là là, c'est une néphilim encore. Bien, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans 1 Corinthiens 1, 19 à 25. 1 Corinthiens 1, 19 à 25. Ce soir, j'exhorte tous les esprits un peu frileux sur la doctrine de peut-être s'abstenir d'écouter cette prédication parce que quelque chose va être rétabli et ça peut peut-être faire un peu frissonner les esprits coincés. Donc, abstenez-vous d'écouter, s'il vous plaît, si déjà au départ vous êtes déjà un petit peu frileux. 1 Corinthiens 1, 19, 25. C'est Paul qui parle. « Je détruirai la sagesse des sages et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. » Amen. Vous asseoir, mes frères et sœurs. Ce soir, donc, je vais aborder un sujet qui va nous aider à comprendre pourquoi des fois on n'est pas compris. Quand on lit les Saintes Écritures, frères et sœurs, on est confronté à deux puissances. Alors, évidemment, si je parle à des gens spirituels, ils vont dire oui, le bien et le mal. Hein? Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Les deux puissances auquel on se trouve confronté, c'est la culture juive et la culture grecque. On n'y coupe pas. Alors, des fois, les gens l'ignorent, des gens ne savent pas, et alors, ils peuvent être un peu dans la confusion. Pour faire rapide, parce qu'on on pourrait s'étendre, et je pense que quand on se trouvera entre nous au château, on va en parler, mais là, pour faire rapide, je dirais que, si vous voulez, la culture juive, la pensée hébraïque, se caractérise surtout par le dynamisme, c'est-à-dire l'application, l'action, la mise en action. La pensée grecque, elle va plutôt vers le statique, le contemplatif, le philosophique et toutes ces choses. Alors, on connaît bien les maîtres juifs, encore à l'heure actuelle, si vous arrivez de temps en temps de regarder le dimanche matin sur la 2, c'est un délice d'écouter, de regarder ces émissions juives. Vous allez voir qu'ils peuvent discuter à l'infini sur des finesses d'interprétation, sur l'application de la loi dans la vie de tous les jours. C'est toujours très pratique. Mais ils peuvent discuter à l'infini. Hein. Philippe, qui connaît bien, il a fréquenté un peu des gens de ce milieu, il sait bien. Par contre, il s'intéresse moins à la théologie. Il s'intéresse moins à la doctrine. Quand vous lisez les enseignements de Jésus, qu'est-ce que vous trouvez? Vous vous trouvez non pas devant un exposé théologique, mais vous vous trouvez devant des règles de comportement. Rappelez-vous le sermon sur la montagne qu'on a étudié pendant des semaines ici. Lisez le Nouveau Testament, vous n'y trouverez pas la moindre tentative de définir Dieu. Jamais. Jamais. Les Grecs, eux, sont plutôt axés sur des questions relatives à la nature, donc à l'origine des choses, et alors, et c'est pourquoi ils sont philosophes. On sait bien que les grands philosophes, ça ne vient pas de Ouagadougou, ça vient de, c'est les Grecs. Alors, vous avez donc deux courants, et encore aujourd'hui. Le grand texte donc, du Sermon sur la montagne, ça devrait être le texte fondateur du christianisme, mais non, pas du tout. C'est un texte qui est un discours de moralité et de vie chrétienne. Par contre, le grand texte fondateur du christianisme traditionnel, celui qu'on connaît, qui est adopté partout, eh bien, il est imprégné de la philosophie grecque, mais à un point, c'est le fameux credo de Nicée, le credo de Nicée, qui, avec sa fameuse définition de la Trinité, il a fallu qu'ils décortiquent, n'est-ce pas, voilà, et qu'ils imaginent. Alors au début, les prédicateurs juifs ont été tournés en ridicule. C'est pourquoi on voit l'apôtre Paul, il dit « Je ne suis pas venu vers vous avec des effets de sagesse, de phrases, et de, n'est-ce pas Parce que vous aviez des discoureurs religieux et philosophiques en Grèce, ils étaient imbattables, ils étaient fantastiques, et les Juifs sont arrivés là avec leurs prédications. Il y a un homme qu'on appelle Clément de Rome, qui avait fréquenté l'école philosophique de sa ville natale, et il était très déçu parce que, en fait, ses profs s'intéressaient surtout à montrer leur propre sagesse, plutôt que d'aider les élèves à parvenir à la vérité. Ils étaient toujours un petit peu dans la confusion, et il a écrit quelque chose d'extraordinaire, il était donc à un moment où il était déçu, et il dit, c'est à ce moment-là que, alors là je lis, c'est ses propres paroles, enfin des choses qui sont écrites, c'est à ce moment-là que des rumeurs commencent à parvenir à Rome, parce qu'il était à Rome, concernant un grand faiseur de miracles dans la lointaine Palestine. Un jour, en se promenant en ville, Clément tombe sur un prédicateur occupé à prêcher aux passants. Il s'agit d'un chrétien juif appelé Barnabas, qui proclame la venue du Christ. Clément écrit « Quand j'entendis ces choses, je me mis avec le reste de la foule à le suivre et à écouter ce qu'il avait à dire. Je me rendis compte, en vérité, qu'il n'y avait aucun artifice dialectique, c'est-à-dire aucun argument du genre de ceux qu'on cultivait dans les académies de philosophie chez cet homme. » Mais qu'il exposait avec simplicité et sans aucun artifice de langage les choses qu'il avait entendues de la bouche du Fils de Dieu ou qu'il avait vues. Car il ne confirmait pas ses affirmations par la force des arguments, mais il proposait entre les personnes qui l'entouraient beaucoup de témoins des paroles et des merveilles qu'il relatait. Donc il y avait des gens qui étaient là pour dire « Oui, c'est vrai, ma vie a changé. Oui, c'est vrai, j'étais miraculé. Oui, c'est vrai, je suis né de nouveau. » Et voilà. Un certain nombre de personnes dans la foule furent impressionnées et commencèrent à accorder crédit à ce que Barnabas et les autres témoins racontaient. À ce moment-là, un groupe de badauds d'orientation philosophique contesta les paroles de Barnabas. Ils commencèrent à se moquer de l'homme et à le traiter avec mépris et à lui jeter des grappins de syllogismes comme des armes fortes. Pourquoi les pucerons minuscules ont-ils 6 pattes et 1 paire d'ailes ? Alors que l'éléphant, qui est bien plus grand, n'a que 4 pattes et pas d'ailes du tout, voyez. Mais Barnabas refusa d'entrer dans leurs objections ridicules. « Nous sommes chargés, dit-il, de vous annoncer les paroles et les œuvres merveilleuses de celui qui nous a envoyés et de confirmer la vérité de ce que nous disons, non par des arguments subtilement formulés, mais par des témoins venant du milieu de vous. » Voilà, ça c'est quelque chose, c'est historique, c'est magnifique, c'est bien, bon, c'est pas dans la Bible, mais c'est quand même quelque chose, c'est un témoignage qui est quand même extraordinaire. Ce fameux Clément, donc, s'est converti à sa façon, c'est quand même, il est resté très spécial, très imprégné de la philosophie grecque, et il a mis au point un projet, c'était celui-ci, c'était de mettre la supériorité intellectuelle grecque à la disposition de l'Église pour la rendre plus respectable, parce qu'elle était méprisée à cause justement de cette simplicité, n'est-ce pas, de cette simplicité. Alors, à l'école philosophique grecque, il avait appris beaucoup de choses qui venaient de Platon. Platon, c'était quelqu'un qui vivait à peu près 400 ans avant Jésus-Christ. Et ce Platon disait que Dieu était immatériel. Et il avait des arguments, je vous en donner deux ou trois, mais c'est fantastique. Alors, il a, comme on dit, hellénisé le christianisme. Nous avons un christianisme hellénisé, c'est-à-dire grec. Hein? C'est plus le christianisme du départ, du commencement. C'est pourquoi ça a commencé à dévier là. Et c'est pourquoi maintenant Jésus est en train de rétablir toute chose avant la fin. Alors, l'idée, c'était de dire que Dieu est esprit. Dieu est esprit. Origène, qui est un des pères de l'Église naissante, alors, il a rejeté formellement l'anthropomorphisme. Vous ne savez pas ce que c'est l'anthropomorphisme. Anthropos, ça veut dire homme, morphisme, machin, ça veut dire forme. Parce que les philosophes grecs méprisaient l'anthropomorphisme. Ils disaient que c'était pour les toyers, pour les gens simples, que Dieu est bien plus élevé que cela, et que bon, pour eux, il faut des images, il faut leur dire que Dieu a une bouche qui parle, et des choses comme ça. Mais en fait, Dieu n'a pas de bouche, Dieu est infiniment plus grand que ça, et voilà. Un anthropomorphiste, il attribue, par contre, à Dieu, des traits corporel, hein, comme on voit dans Exode 33:23, où Dieu apparaît à Moïse de dos, donc Moïse a vu le dos de Dieu. Si Dieu n'a pas un corps, je ne sais pas comment est-ce qu'il a pu voir son dos. Hein. Dans Deutéronome 8:3, la bouche de Dieu, on peut dire oui, mais c'est des images. 1 Samuel 15:19, la voix de Dieu, s'il a une voix, à mon avis, il doit avoir des cordes vocales, et aussi une langue pour parler, un corps, quoi. Dans Actes 2, 33, la droite de Dieu, comment voulez-vous qu'un esprit ait une droite, une gauche? Hein? Il a des passions, Genèse 6, 6, Exode 15, 17, Deutéronome 28, 63, il est compatissant, il a des comportements. Hein? Donc, par exemple, Genèse 3, 2, 3, 8, pardon, Exode 15, 3, 1 Roi 18, 27. Il a tout ça, des comportements, des passions et des choses, des traits corporels semblables à ceux de l'homme. Anthropos, homme, et morph, forme. Donc, d'une morphologie, c'est-à-dire la forme, n'est-ce pas? Maintenant, la Bible nous dit que Dieu a créé l'homme à son image. L'homme a-t-il été créé à l'image de Dieu selon la forme de Dieu? Ah, c'est les grandes questions théologiques qu'on a débattues à Nicée, on ne va pas faire ça en une soirée, mais quand même réfléchissons un peu. Les philosophes grecs se moquaient des croyances religieuses juives, mais aussi des croyances religieuses grecques et des croyances religieuses égyptiennes qui montraient Dieu, des dieux à tête de chien et compagnie. Les philosophes se mettaient au-dessus de tout ça et ils parlaient de toutes ces religions comme des choses stupides. Et Dieu n'a aucune apparence. Voilà ce qu'il prétendait. Platon enseignait que Dieu ne pouvait être que spirituel sans aucune ressemblance avec ce qu'il avait créé, disait-il. Il disait, par exemple, Dieu n'a pas de corps, il est immatériel, il est parfait. Alors maintenant, supposons qu'il soit matériel. S'il a un corps, il bouge. Et s'il bouge, cela implique que la position qu'il avait avant était imparfaite. Vous voyez, c'était des arguments. Voilà. Mais ça va, il en donne beaucoup d'autres, mais c'est tout dans ce style-là, je ne veux pas vous les énumérer tous, mais voilà, quoi, c'était pour essayer de faire comprendre que Dieu, n'est-ce pas, n'a pas de... Alors, il y avait donc ces deux courants. D'un côté, les Juifs, qui croyaient en un Dieu qui a une bouche qui parle, qui a un bras qui n'est pas trop court pour agir, un Dieu que Moïse a vu de dos, sa main s'est mise sur son visage, il a passé, il a vu que de dos. Et de l'autre, vous avez les chrétiens hellénistes qui croient comme Platon et comme les chrétiens d'aujourd'hui. Finalement, c'est Constantin, ce cher Constantin, l'empereur romain, qui a essayé de régler la chose et qui est plus ou moins parvenu. Il a réglé la nature de Dieu. La Trinité est devenue officielle en 325 à Nicée. Hein, c'est obligatoire à partir de là. Si vous ne croyez pas ça, vous êtes excommunié. C'est comme ça. Hein? Et puis c'est dans toutes les religions, hein, dites chrétiennes. À ce concile, il y avait à peu près 300 évêques qui étaient venus d'à peu près tout l'Empire. C'était l'Empire romain. Constantin, c'était un empereur romain. Mais le pape, qui s'appelait Sylvestre, Sylvestre, il n'a pas daigné venir. Il a juste envoyé deux curés. Et le dogme le plus fondamental de l'Église catholique est né comme ça, n'est-ce pas, sous la direction d'un empereur romain, c'est-à-dire c'était le profane qui commençait à entrer dans le religieux, le politique qui se mêlait, n'est-ce pas, des choses de Dieu, le temporel qui se mêlait des choses. Voilà. Et à ce concile, ce sont des évêques qui étaient des néo-platoniciens, c'est-à-dire c'est eux qui vont régler la définition de la Trinité qui est une et trois en même temps. Et alors, bref, tout ce petit monde a fini par admettre que Dieu était un mystère. Ben voilà, comme ça règle les choses. On ne peut pas comprendre. C'est tellement, tellement au-dessus de nous, et penser glorifier Dieu en faisant ça, que c'est devenu un mystère, le mystère. On est vraiment loin des paroles de Paul qu'on a lues au départ dans 1 Corinthiens 1, 19 à 25, mes frères et sœurs. Il a confondu la sagesse des sages, etc., etc. C'est vraiment, on est loin. Mes frères et sœurs, la conception chrétienne de Dieu dans les nations, elle n'est pas biblique. Elle n'est pas biblique. Elle est le produit de discussions d'hommes qui ont utilisé leur raisonnement philosophique et ça débouche sur des tas de contradictions qu'on a finalement masquées sous le beau mot de mystère. Voilà où on en est aujourd'hui. Alors, le titre de ma prédication, c'est pour être Lisons la Bible et restons-en là. Pas essayer d'expliquer les choses, lisons la Bible et restons-en là. Genèse 1, 26, 27. Dieu crée l'homme à son image, il le crée à l'image de Dieu. Il répète deux fois. Genèse 5, 1, 3. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Et Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance selon son image et lui donna le nom de Seth. Vous ne trouvez pas que c'est quand même bizarre ce parallèle qui est fait entre la ressemblance de Seth et Adam et la ressemblance d'Adam avec Dieu? Moi, c'est clair. C'est clair. Il s'agit d'une ressemblance physique. Alors, lisons la Bible et restons-en là. Genèse 3, 22. L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Qui est ce nous? Eh bien, c'est l'Éternel qui parle. Et qui est avec l'Éternel quand il dit nous? Alors, on va dire, oui, c'est un pluriel d'importance, oui, c'est ceci, oui, c'est cela. Moi, j'ai tout dit et son contraire. Parce que les théologiens racontent n'importe quoi. Et qu'est-ce que la Bible dit? Qui était avec l'Éternel? L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est venu comme nous, comme l'un de nous. Qui était ce nous? Eh bien, Jésus, c'est-à-dire Dieu qui vivait dans la création. L'Éternel Dieu avec celui qui était le premier-né de la création, il dit, eh bien voilà, ils sont comme nous maintenant. Vous comprenez? Ce nous, c'est Jésus, le premier-né de toute la création, qui se trouve avec l'Éternel Dieu, celui qui n'est pas créé. Je ne dis pas que Jésus est créé, mais il s'est mis dans sa création, il s'est créé dans sa création. Il est le premier-né de toute la création. On ne peut pas dire autre chose que ce qui est dit. Lisons la Bible et restons-en là. Genèse 12, 7. L'Éternel apparut à Abraham. C'est pas écrit. Il a pris une forme pour apparaître. Non, l'Éternel apparut à Abraham. Genèse 26, 2. L'Éternel lui apparut. Genèse 26, 24. L'Éternel lui apparut. Genèse 35, 13. L'Éternel s'éleva au-dessus de lui dans le lieu où il avait parlé. Il s'éleva. Donc, il était à un endroit, il a bougé. Hein? Genèse 48, 3. Jacob dit à Joseph, le Dieu Tout-Puissant m'est apparu. Alors, lisons la Bible et restons-en là. Lisons Ézéchiel. On va lire Ézéchiel. Ézéchiel, chapitre 1, verset 26-28. Ça vous intéresse? Ça vous interpelle? Ça vous fait bouger les méninges? Ézéchiel 1, 26-28. Écoutez ça. Au-dessus du ciel qui était sur leur tête, donc tous ces êtres, n'est-ce pas, spirituels avec les ailes et tout, au-dessus du ciel qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir en forme de trône, et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée dessus en haut. Et je vis encore comme de l'airain poli, comme du feu, au-dedans duquel était cet homme, et qui rayonnait tout autour, depuis la forme de ses reins jusqu'en haut, et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas, je vis comme du feu et comme une lumière éclatante dont il était environné. Ah, il a vu Dieu sur son trône, une forme. Étienne, qu'est-ce qu'il vit? Ben, sur ce trône, il y avait le Dieu, et à côté, il y avait son Fils. Donc le Dieu éternel, et puis le premier-né de toute la création, le Fils qui était là à côté. Bon. Et plus fort, Jésus dans son corps d'homme est l'image du Dieu qu'on ne peut pas voir. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas visible, ça veut dire que nous, on ne peut pas le voir. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas visible. Dans la Bible nous dit que Moïse pouvait le voir. Il a vu que son dos, mais il a vu quelque chose. Mes frères et sœurs, nulle part dans la Bible, il est dit que Dieu est immatériel. Nulle part dans la Bible, il est dit que Dieu est sans forme. Et nulle part dans la Bible, il est dit que Dieu prend une forme pour se montrer. Qui a vu Dieu? Jésus l'a vu. Jean 6, 46, ce n'est pas que personne ait vu Dieu, sinon celui qui vient de Dieu, celui-là a vu le Père. Dieu habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue ni ne peut voir. 1 Timothée 6, 15, 16. Ézéchiel quand même a vu, hein? Et Timothée dit qu'il habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue ni ne peut voir. Il habite quelque part. Allons bon. Dieu est-il un esprit? Question. Jésus dit oui dans Jean 4, 19, 24. C'est quand il parle avec la Samaritaine, il dit ça. Il dit qu'on n'adore pas Dieu ici ou là, ou de cette manière ou d'une autre, mais que Dieu cherche des adorateurs en esprit, en vérité, parce que Dieu est esprit. Il faut bien comprendre ce qu'il dit. Il est en train de dire on n'adore pas Dieu avec notre corps. Ce n'est pas en se mettant à genoux qu'on adore Dieu, ce n'est pas en levant nos bras qu'on adore Dieu, ce n'est pas en émettant des sons qu'on adore Dieu, ce n'est pas en dansant qu'on adore Dieu, c'est en se roulant par terre qu'on adore Dieu, c'est en esprit qu'on adore Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en vie, en vécu, en vie, en énergie, en vie, en lumière. On adore Dieu comme ça, en vie, en esprit. Il n'est pas charnel, Dieu, c'est ça qu'il veut dire. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de corps, mais ça veut dire que ce n'est pas une relation de corps à corps, c'est une relation d'esprit à esprit. Parce que ce Dieu qui a un corps, il a aussi un esprit qui nous a envoyés. Pourquoi je vous raconte tout ça? Quel bien ça peut vous faire pour payer vos impôts? Quel bien ça peut vous faire pour savoir pour qui vous allez voter dans quelques mois? Quel bien ça peut vous faire pour mettre du beurre dans vos épinards? Bon, si vous êtes venu pour ça, il faudra repasser. Pourquoi je vous raconte tout ça? Mes frères et sœurs, nous vivons dans l'époque du rétablissement de toutes choses. Dieu est en train de rétablir toutes choses. Il faut que nous ayons une compréhension claire et nette des choses de Dieu, et non pas la compréhension qui nous a été donnée par des hellénistes philosophes. Ce rétablissement nous conduit à la perfection. Il nous conduit dans la présence même de Dieu. Et là, la Bible dit que nous serons semblables à lui. On va lire la Bible et on va en rester là. Je vous propose de lire Philippiens 3, 20, 21. Mais nous sommes concitoyens des cieux, d'où nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Aviez-vous déjà réalisé ça? Il rendra nos corps semblables à son corps. Le corps de sa gloire. Lisons la Bible et restons-en là. 1 Jean 3, 2, pour aller encore un peu plus loin dans la compréhension de ces choses. 1 Jean 3, 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Ah oui, nous serons semblables à lui. Pour quelle raison? Est-ce qu'il va ressusciter nos corps? Croyez-vous à la résurrection des corps? Oui. Nos corps, la Bible dit qu'ils seront glorifiés, n'est-ce pas? Nous serons semblables à lui avec des corps glorifiés. Nous aurons des corps célestes comme il a un corps céleste. Différent du nôtre, certes, mais un corps. Nous sommes créés à son image, à sa ressemblance, dans un système créé, là, comme ça. Mais ça ressemble à Dieu. C'est à son image. Comme Jésus, quand il est venu, quand Dieu est venu dans un corps d'homme, il était l'image du Dieu vivant. Comme le tabernacle était l'image de ce qui est dans la réalité céleste. Il y a un tabernacle dans le ciel. Et aujourd'hui, nous avons un corps terrestre, mais nous revêtirons un corps céleste. Avoir un corps céleste ne signifie pas ne pas avoir de corps. Et si nous aurons un corps et que nous lui ressemblerons, que nous serons comme lui, nous venons de le lire, semblable à lui dans 1 Jean 3:2, ça veut dire quoi? Mes frères et sœurs, le but de ma prédication est premièrement de rétablir cette vérité. J'avais déjà parlé un peu là-dessus, mais jamais aussi profondément. Mais c'est aussi de nous aider à comprendre que nos corps, ce n'est pas une quantité négligeable. Ils ressusciteront. Ils revêtiront l'immortalité. Ils revêtiront la gloire. Il nous sera demandé ce qu'on en a fait. Prenons soin de nos corps, peu importe que cette doctrine rétablie, choque des traditionnalistes qui croient que Dieu n'a pas de corps et qui méprisent même des fois le corps en disant « le corps, c'est la chair, c'est le diable et tout ». Non, 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 c'est une création de Dieu. Nous devons prendre soin de ce que Dieu a créé. Dieu a une forme. Il s'est montré en Jésus-Christ, homme parfait qui aime, qui s'irrite, qui compatit, qui pardonne, qui châtie, qui est patient, etc., etc. Tout cela, ça me montre que Dieu, nous n'avons aucun mal à le considérer comme notre Père, tant nous lui ressemblons, pas seulement dans nos caractères, mais dans tout. Il parle, il écoute, il bouge, il agit, il vient à ton secours, il habite une lumière qui pour nous, en ce moment, nous est inaccessible, mais il y habite, il y est. Le christianisme en a fait un Dieu inaccessible, un Dieu mystérieux, n'ayant presque aucun point commun avec nous. Il est immatériel, il est immobile. Si il est immatériel, il est immobile. Comment voulez-vous que quelque chose qui est immatériel soit mobile? Il ne peut être mobile que dans l'espace. Mais comment voulez-vous qu'il puisse être mobile dans l'espace si il est hors, s'il n'y a pas de temps pour lui? Tout cela est, tout ce qui est créé est à l'image de ce qui est dans la réalité de ce corps spirituel dans lequel Dieu évolue. Il y a un monde spirituel. Le monde spirituel, quand on dit au ciel, ce n'est pas dans le sens d'un peu plus haut que les nuages. C'est dans le monde spirituel, c'est dans le monde de Dieu. Dans le monde de Dieu, la Bible nous dit qu'il y a des chevaux. Est-ce qu'ils ont un corps? Oui, sinon on pourrait les confondre avec des esprits de girafe. Ils ont un corps. La Bible nous dit qu'il y a des rivières. Tout ça, c'est une matière, c'est physique. Pas de la même matière que celle que nous avons, que Dieu a créée, qui ressemble, qui est à l'image d'eux. Mais ça existe en réalité. On ne sera pas, comme disait notre ami Renaud, des espèces de fantômes assis sur un nuage. Non, on ne sera pas ça. Désolé, on ne sera pas ça. Nous n'avons tout ce que cette philosophie chrétienne helléniste a fait, c'est de nous rendre différents de Dieu, tellement différents qu'on n'a plus aucun point avec lui, plus aucune affinité, plus rien du tout avec lui. Et à force de l'immatérialiser, on se sent orphelin, alors on en vient, quand on est vraiment bas, à se fabriquer des idoles. Qui ont des bouches qui ne parlent pas, qui ont des oreilles qui n'entendent pas, qui ont des mains qui... Vous voyez, mes frères et sœurs? Ou alors à rendre un culte non pas à des idoles, mais à une doctrine. Ça, c'est typiquement grec, avec des arguments. Ça, c'est grec. Lisons la Bible et restons-en là. Qu'est-ce que la Bible nous dit? On avait cru pendant longtemps que le serpent, que le diable, c'était un ange déchu. On a vu que non. On a vu longtemps, on a cru longtemps que Adam était le père de tous les vivants. On a vu que non. On nous a dit des tas de choses et on a vu que non. Quand on lit la Bible et qu'on reste là, on s'aperçoit et la vérité ainsi peut être rétablie. Mes frères et sœurs, Enoch a vu ce qu'aucun homme a vu. C'est le premier prophète de Dieu, le premier prophète de Dieu, le septième depuis Adam. Et vous en apprendrez plus en lisant ce qu'il a vu qu'en lisant tout ce que les théologiens, philosophes, hellénistes ont écrit et dit. Approchez-vous de Dieu aussi avec votre corps. Approchez-vous de Dieu. Dans Jean 3, 2, 3, il est dit, lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. J'ai arrêté ma lecture là tout à l'heure, mais je vais continuer ma lecture parce que Jean dit, lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui avec un corps glorifié, comme il a un corps qui est glorieux, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Amen. Merci Seigneur Jésus de m'avoir aidé à annoncer ces choses. Je te prie, mon Dieu, que nous puissions vraiment les cultiver dans nos cœurs et que nous puissions aller chercher encore dans les Écritures pour comprendre encore davantage. Merci Seigneur de ce que tu nous as créé à ton image, à ta ressemblance, et que cela n'est pas simplement de la poésie, mais que c'est vraiment vrai. Nous voulons prendre ta parole et rien que ta parole. Nous ne voulons pas nous laisser influencer. Nous avons été tellement influencés. Et nous sommes encore tellement influencés par cette philosophie helléniste, chrétienne, soi-disant. Aide-nous à nous en débarrasser pour que le rétablissement de toutes choses puisse être manifesté au travers de nous. Merci Jésus. Merci de nous aider à marcher de l'avant, aller de l'avant, en craignant ton Saint-Nom et en nous accordant avec toi au plus près de ce qu'il est possible. Dans le nom de Jésus, mon Dieu. Amen.